Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Et le premier journal de la matinale est présenté par Hélène Zellani. Bonjour ma chère Hélène.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Édouard Philippe passe au vert, discours de politique générale pour le Premier ministre où l'écologie tenait une large place. Pas touche à la retraite à 62 ans, mais des incitations pour travailler plus longtemps. Emmanuel Macron au Sable d'Olonne ce matin, hommage aux trois marins bénévoles décédés en mer la semaine dernière. Et puis un désastre pour l'industrie de la musique. On apprend qu'Universal Studios a caché la perte de centaines de milliers d'archives parties en fumée dans un incendie en 2008.
8h15, Jordan Bardella, le député européen du Rassemblement National, sera l'invité d'Audrey Crespo-Mar.
Sans surprise, Édouard Philippe a donc obtenu la confiance de l'Assemblée. Hier, 363 députés ont approuvé sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre a fixé le calendrier chargé des réformes pour les mois à venir. Des chantiers à foison pour cet acte 2 du quinquennat et une dominante verte, Aurélie Herbemont.
L'acte 2 sera écolo ou ne sera pas, c'est le message qu'a voulu faire passer Édouard Philippe après les 13% des Verts aux européennes.
Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du vert. Ces 12 prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique.
Haro sur le plastique dans les administrations, notamment un coup de barre côté vert et un coup de barre à gauche avec l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Ajouté au menu des réformes de la justice fiscale avec 5 milliards de baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes.
C'est massif, c'est clair, c'est net.
Le Premier ministre n'a pas non plus oublié de donner un coup de barre à droite avec la réforme des retraites, fin des régimes spéciaux et volonté affichée de faire travailler les Français plus longtemps.
Nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans en ne bougeant pas l'âge légal, mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps.
Du et en même temps qui ne satisfait évidemment pas les oppositions, mais qui va occuper le Parlement ces prochains mois, après 6 mois au ralenti.
Aurélie Herbemont, vous avez entendu qu'Édouard Philippe évoquait la réforme des retraites. Il a confirmé que la réforme instaurant un système de retraite universelle par points serait l'un des grands chantiers à venir. On ne touchera pas à l'âge légal à 62 ans. Mais pour autant, Olivier Samain, nous serons incités donc à travailler plus longtemps.
Il faudra distinguer l'âge légal, il ne bougera pas, 62 ans, d'un âge d'équilibre qui sera, lui, plus élevé. 64 ans, 65 ans, le gouvernement se garde bien pour l'instant de lâcher un chiffre. Mais en employant cette expression « âge d'équilibre », le Premier ministre donne une indication. Il s'agira d'identifier l'âge à partir duquel la masse des départs à la retraite ne grèvera pas l'équilibre du régime. Les actifs qui accepteront d'attendre cet âge-là pour prendre leur retraite seront avantagés. C'est l'incitation dont parle Édouard Philippe. En clair, leur pension sera majorée, elle se verra appliquer une surcote. Y aura-t-il, à l'inverse, une décote pour les salariés qui ne voudront pas différer leur départ, qui exerceront leur droit à la retraite dès l'âge légal, dès 62 ans? Le Premier ministre n'a pas évoqué ce schéma hier. Il faut dire que le sujet est sensible. Même s'il y a un précédent, depuis le début de cette année, les retraites complémentaires sont soumises à un bonus-malus. Les salariés qui partent dès 62 ans se voient appliquer un abattement de 10% sur leur pension pendant les 3 premières années.
Olivier Samain, ce matin à partir de 9h30, Édouard Philippe prendra la parole devant le Sénat. Pour la première fois, une déclaration de politique générale sera soumise à un vote dans une chambre haute tenue par l'opposition. Europe 1, il est 7h04.
Nouveau moment de recueillement ce matin au Sable d'Olonne.
Un hommage national qui sera rendu aux 3 marins sauveteurs de la SNSM, morts la semaine dernière en voulant porter secours à un pêcheur. Stéphane Loinel est lui-même sauveteur bénévole depuis 14 ans à Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes d'Armor. Il pousse un coup de gueule sur le manque de soutien financier de l'État.
Alors qu'on fait partie de la chaîne de secours, au même titre que les pompiers, que les urgentistes. Pour autant, on est quasiment seul à financer nos équipements. 80% de financement des investissements de la SNSM sont assurés par les moyens qu'on arrive à collecter dans nos stations. L'État ne donne que 6 millions d'euros. Nous, on nous exhorte à aller récolter de l'argent par nous-mêmes. On fait des kermesses, on vend des calendriers, on vend des produits dérivés pour financer des vedettes qui coûtent au bas mot 1 million d'euros. On estime que les investissements lourds de la SNSM devraient être financés intégralement par l'État.
Stéphane Loanel, sauveteur bénévole au micro Europe 1 de François Coulon. Autre hommage aujourd'hui, une marche blanche à Lorient à la mémoire du petit garçon de 10 ans tué par un chauffard, toujours en fuite d'ailleurs. Hier, 500 personnes ont assisté à ses obsèques. L'inhumation se déroulera aujourd'hui en Turquie. Et puis à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, les surveillants se retrouvent ce matin pour décider des suites de leur action. Hier, certains ont refusé de prendre leur service. Ils voulaient réclamer des réponses concrètes en termes de sécurité après la prise d'otage de deux de leurs collègues par un détenu.
La suite du journal avec Hélène Zélénier. C'est vrai que ça n'a pas été une partie de plaisir, cette victoire des Bleus hier soir. Elles se sont battues comme des lionnes à Nice.
Oui, vous avez pu le suivre en direct sur Europe 1. Les filles de Corinne Diacre l'ont finalement emporté 2-1 contre la Norvège. Deuxième match du mondial et deuxième succès. Une épreuve passée non sans mal, Julien Froment.
Les Bleus ont tenu en haleine les 34 872 spectateurs dans une partie qui s'est déroulée en plusieurs actes. Un coup du pied tout d'abord, celui libérateur de Valérie Gauvin à la 46e minute. Punie par Corinne Diacre lors du match d'ouverture pour des retards à l'entraînement. L'attaquante était cette fois-ci à l'heure. Et puis, un coup du sort, le but contre son corps de Wendy Renard, incrédule.
Vous passez de tout au tout en fait. L'équipe arrive à ouvrir la marque. C'est vrai, dans ces situations-là, vous vous sentez seul en fait. Même comme une conne, limite.
D'un coup du sort, les Bleus s'en sortent avec un coup de pouce du destin. Ce pénalty obtenu grâce à l'assistance vidéo est transformé par Eugénie Le Sommer. Pour la numéro 9 des Bleus, cette victoire dans la douleur soude encore plus l'équipe de France.
Il faut parfois passer par des moments difficiles pour aller loin dans la compétition. Aujourd'hui, on apprend encore. Il faut se servir de ça. L'équipe a eu du caractère, a eu du mental pour revenir et c'est ça qu'il faut retenir.
Encore un petit effort pour les Bleus. Elles devront valider officiellement leur qualification et leur première place lundi prochain à Rennes face au Nigeria. Nice, Julien Froment, Europe 1.
Musique des titres d'Elton John, de Clapton, de Chuck Berry ou d'Aretha Franklin. Tout ça, c'est parti en fumée.
Et
quelle
oui,
tristesse.
C'est le plus grand désastre de l'industrie musicale. Il s'est produit il y a 11 ans et sur le moment, personne ne l'a su. C'est une longue enquête du New York Times qui dévoile l'incroyable nouvelle. La maison de disques Universal a caché la disparition de centaines de milliers d'archives sonores dans l'incendie d'un entrepôt à Los Angeles, Benoît Clerc.
Oui, flashback de 11 ans, nous sommes le 1er juin 2008 au petit matin lorsqu'un incendie éclate dans les studios Universal à Hollywood. Plusieurs centaines de pompiers font rapidement face à un hangar transformé en un gigantesque brasier. Une épaisse fumée noire et une odeur âcre enveloppent bientôt toute la banlieue nord de Los Angeles. Les journalistes sont tenus bien à l'écart et Universal Music Group refuse à l'époque de répondre à nos questions sur l'ampleur des dégâts. Le service communication de Vivendi USA ne va pas hésiter à mentir à la presse en minimisant les faits, nous parlant, je cite, de quelques milliers de copies d'enregistrements détruits. La réalité est hélas beaucoup plus cruelle et la vérité vient d'éclater grâce à Randy Aronson, un archiviste qui n'a pu garder plus longtemps le secret qui le hantait depuis 10 ans. Ce sont au moins 500 000 originaux des années 40 à nos jours, de Ray Charles à Louis Armstrong, de Cat Stevens à Elton John, en passant par Nirvana, John Baez ou Aretha Franklin, qui ont été ainsi perdus à tout jamais. Le montant financier est inestimable, le préjudice culturel l'est bien plus encore. Vivendi souhaitait vendre la moitié de sa filiale musicale. Apple, Amazon et le chinois Alibaba étaient sur les rangs. Les artistes qui découvrent le scandale vont sans doute aussi lui demander des comptes.
Benoît Clerc à Los Angeles pour Europe 1.
Un peu de musique encore ?
Un peu d'Aretha Franklin.
Ah, ça fait toujours du bien. Vous dansez ?
On y va. Je vais y aller, moi, je vous laisse.
Qu'est-ce qui marche sur les pieds depuis tout à l'heure ? Hélène Zélani, le journal de 7h. Merci, ma chère Hélène, à demain.